Chapitre 14. Toute l'après-midi, Nicolas rôda rue Lafayette, aux abords de l'hôtel du Cercle, que Madame Aftalion et son fils, écœurés par les tracasseries des époux Coquerel, étaient venus habiter une quinzaine durant, jusqu'au moment où ils louèrent l'appartement meublé de la rue Eugène Manuel. Il lui répugnait d'emprunter quelque argent à M. Necker, le propriétaire. Au temps où il avait occupé une chambre de son immeuble, il avait entretenu d'amicales relations avec ce dernier, s'était attardé chaque soir dans le bureau. Un jour même, les deux hommes s'étaient rendus ensemble dans un cinéma. M. Necker, homme simple, pourtant curieux d'une foule de choses et désireux d'user des loisirs que lui donnait la direction de son hôtel aux fins d'acquérir les connaissances qu'il devinait devoir lui manquer, avait écouté pieusement les propos de son locataire, si bien que celui-ci, flatté d'être pris en une telle considération, avait discouru sans interruption. C'était d'ailleurs entre eux des échanges de politesse qui n'en finissaient plus. L'hôtelier s'appliquait à la courtoisie, ainsi qu'un enfant à un jeu. Elle lui était apparue tout à coup comme le signe des conditions supérieures. Avec un soin de frais initié, il veillait à observer toutes les convenances, craignant à tout instant de trahir son origine modeste. Quand les banques étaient fermées, Nicolas lui avait plusieurs fois emprunté de l'argent qu'il rendait au jour et à l'heure indiquée, ce que M. Necker avait remarqué, bien qu'il affectât de ne plus se souvenir du prêt qu'il avait consenti et qu'il laissa traîner négligemment les billets. En quittant l'hôtel, Nicolas avait promis de repasser de temps en temps, mais n'avait point tenu parole. Aussi éprouvait-il de la gêne à renouer dans un but intéressé, surtout qu'il faudrait bavarder avant, comme si de rien n'était. « Il ne pourra pas me refuser », répétait-il pour se stimuler. « Après tout l'argent que nous avons laissé chez lui, ce serait honteux. » Pourtant, il n'osait toujours pas entrer. Il était si mal vêtu qu'en passant devant les glaces des magasins, il détournait la tête. Finalement, il s'arrêta devant l'hôtel. Le bureau, aménagé derrière une devanture qui fut jadis celle d'une pharmacie et dont la porte donnant sur la rue était condamnée, était dissimulé par des rideaux. Une marquise, tachée par les ombres des objets tombés des fenêtres, abritait le trottoir devant l'entrée. Pris subitement de courage, Nicolas s'engagea dans le couloir, auquel deux fauteuils d'osier, une table, quelques plantes vertes donnaient un air de hall. À sa gauche, dans le bureau, le propriétaire lisait un journal. « Bonjour, monsieur Necker. Ah, vous me surprenez. Je viens vous voir. Gentil de votre part, cela. Merci. » L'hôtelier, tout à la fierté de recevoir un ancien locataire, mit l'usure et des taches des vêtements de Nicolas sur le compte de la négligence. « Les gens les mieux habillés, remarquez-le, n'ont jamais un sou. » Tout chez eux, c'est pour la parade. Quand M. Necker parlait d'un de ses locataires très riches, il ne manquait pas de dire que celui-ci était vêtu aussi simplement que lui. Son mépris de l'habillement était tel que, pas un instant, il ne soupçonna la situation du visiteur. « Asseyez-vous, prenez le siège qui vous convient le mieux. Je remarque quelque chose de neuf chez vous. Mais c'est que j'ai fait refaire les boiseries. » Avant, vous vous rappelez, on voyait sur les murs comme des zébrures. Les rayons du pharmacien avaient laissé de longues lignes plus claires. Il fallait repeindre, il n'y a pas de doute. C'est comme la cloison vitrée qui se trouvait là. Elle donnait mauvais genre, j'ai préféré la supprimer. Je voulais vous le dire quand j'habitais chez vous. Ce n'était pas la peine, il y a longtemps que je m'en étais aperçu. C'est quand même aimable de votre part d'y avoir pensé. « Mais vous allez me faire le plaisir de boire quelque chose. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur Aftalion ?»« Comme vous. »« Vous choisirez. Je vais chercher mes plus fines bouteilles. Il en est même une que vous connaissez particulièrement, je crois. » Nicolas resta seul dans le bureau. Les cuivres étincelaient. Tout y était propre et en ordre. À un tiroir du secrétaire pendait un trousseau de clés que l'hôtelier, avant de sortir, avait regardé une seconde. L'idée de fouiller dans le meuble traversa l'esprit de Nicolas, mais il ne bougea pas. « Je n'ai pas le temps, » pensa-t-il. Peu après, M. Necker reparut, tenant à la manière des sommeliers, plusieurs bouteilles. « Comme j'ai bien fait, il m'aurait surpris en plein, » « Mais comment va, madame votre mère ? Excusez-moi de ne pas vous l'avoir demandé plus tôt. Vraiment, je ne sais pas où j'ai la tête. Mon incorrection me fait honte. » Nicolas faillit répondre que, gravement malade, elle avait été transportée dans une clinique afin de faciliter l'emprunt qu'il se proposait de faire, mais tout à coup, il lui apparut qu'il ne connaissait aucune adresse de clinique. « Merci, elle se porte très bien. Et madame Necker ?»« Merci de même, madame Necker va très bien. Alors buvons, monsieur Aftalion, à votre santé et à celle de madame votre mère, naturellement. » Et à celle aussi de madame Necker. Merci beaucoup pour elle. » À ce moment, une femme entra dans le bureau. Un homme l'attendait dans le petit hall. L'hôtelier se leva et sortit en disant « Excusez-moi, monsieur Aftalion, je reviens tout de suite. » À peine eut-il disparu que Nicolas regarda le trousseau de clés, s'approcha machinalement du secrétaire, puis, comme par une frayeur subite, alla s'asseoir dans le fauteuil le plus éloigné. « Ce n'est pas possible, je deviens fou. » Il imaginait le vol, la poursuite, l'arrestation, et cherchait à se représenter le moment qu'il avait peine à concevoir et qui lui causait pourtant une telle honte que la respiration lui en manquait, ou, après avoir été conduit au commissariat, il se retrouvait en face de M. Necker. Depuis un mois, la peur d'une scène semblable le harcelait. À chaque instant, il se figurait qu'après avoir volé des parents ou des gens qu'il connaissait très bien, il se trouvait tout à coup en face d'eux, les mains attachées. Aussi, en sortant de ces sortes de cauchemars, éprouvait-il un profond soulagement qu'il n'en fût rien, et se jurait-il de veiller à ne jamais commettre quoi que ce fût de répréhensible. « Est-ce que le commerce marche bien à présent ?» demanda Nicolas au retour de l'hôtelier. « Toujours la même chose. On ne peut pas se plaindre, mais il n'y a pas de quoi se frotter les mains. »« C'est déjà bien. Et vos petites soirées, continuent-elles toujours ?»« Fallait venir, monsieur Aftalion. » »« Vous savez bien ce que c'est quand on déménage, quand on a toutes sortes de soucis, quand on n'est pas encore dans une situation stable, on n'a pas le temps. » »« Je comprends très bien. Remarquez, monsieur Aftalion, que je ne vous fais pas de reproches. » Je l'avais remarqué. Excusez-moi, je vous dis cela en l'air. Je sais bien que vous êtes libre de venir ou de ne pas venir. » Nicolas ramena la conversation sur ses ennuis. Ce n'est pas une question de liberté, mais de possibilité. Si vous saviez, monsieur Necker, par quoi ma mère et moi avons passé. Je sais ce que c'est, on a chacun ses soucis personnels. Tout à coup, il apparut à Nicolas qu'il ne pouvait plus reculer, que le moment était venu de demander de l'argent, que déjà l'hôtelier se doutait de tout. « Écoutez, monsieur Necker, vous qui êtes si gentil, peut-être pourriez-vous nous rendre un petit service. »« Mais certainement, si je le puis. » »« Il s'agirait de 1 000 francs jusqu'à la fin de la semaine. » Sans hésitation, l'hôtelier répondit « Mais oui, c'est possible. » Puis, se reprenant, « Il faudra tout de même que vous attendiez le retour de ma femme. Elle a les clés de l'armoire. Vous n'êtes pas pressé ?» Monsieur Necker prononça ces mots avec une certaine froideur. Au temps où les Aftalions habitaient l'hôtel, il leur avait toujours dit « Si vous avez besoin de plus, il ne faut pas vous gêner. » Cette fois, il se taisait. D'autre part, Nicolas n'aimait pas la femme de l'hôtelier, chez qui il sentait de la méfiance. Il n'eut plus qu'un désir, faire disparaître la froideur de M. Necker. « Samedi à midi, je vous les rends. Vous me connaissez ?»« J'ai confiance en vous, sans quoi je ne vous les prêterai pas. »« Vous pouvez avoir confiance. »« J'ai confiance. » Au souvenir de sa situation, Nicolas eut honte de tromper cette confiance qui paraissait sincère. Il craignit que la vérité ne surgît tout à coup et ne changea son interlocuteur. Alors, il n'eut plus qu'une pensée, le distraire jusqu'au retour de sa femme. « Ma mère et moi, nous avons retenu un superbe appartement. Vous viendrez, j'y tiens absolument, pendre la crémaillère. 5 pièces, tout le confort. On ne peut pas avoir plus de confort. Salle de bain, téléphone, 2 ascenseurs et eau chaude à la cuisine. Le loyer est un peu cher, 16 000. Mais nous nous en sortirons. Pour les meubles, notre famille nous en offre de tous les côtés. Les fenêtres donnent sur un jardin d'ancien couvent. Ce sera un bijou, cet appartement. » Nicolas n'avait pas le sentiment de mentir. Tout ce qu'il venait de dire existait depuis des mois dans son esprit. Ces mêmes paroles, il se les adressait à lui-même. Leur compagnie lui était si familière qu'il avait l'impression qu'au lieu de mentir, il élevait l'hôtelier dans son intimité. « 5 pièces. Salon, 2 chambres à coucher, salle à manger, bureau. »« C'est ce qu'il vous fallait. Elle doit être contente, madame votre mère. » C'était son rêve. Elle me parlait toujours d'un appartement donnant sur un jardin. « Il est grand, ce jardin ?»« 3 fois le square Montolon. » « Ce n'est pas mal, c'est presque un parc. » « On peut dire que c'est un parc. » Monsieur Necker rougit. Chaque fois qu'il prononçait involontairement une parole qui lui donnait figure de rabat-joie, il lui semblait qu'il avait manqué de correction, ce qui, allant à l'encontre de tous ses désirs, le mettait dans une gêne indescriptible. « Je veux dire que c'est presque un parc immense. »« Immense, non, mais vaste. » L'hôtelier ne répondit pas. Durant quelques instants, il réfléchit. Soudain, il se frappa le front. « Mais au fait, que je suis bête, les clés sont là » dit-il en désignant le trousseau qui pendait au tiroir du secrétaire. En sortant de l'hôtel du Cercle, Nicolas eut l'impression de baigner dans un souffle chaud de bonheur. Bien qu'il eût déjà vu le billet au moment où M. Necker le lui avait donné, il le tira de son portefeuille pour s'assurer que c'était bien 1000 et non 500 francs. En lisant 1000, il eut comme un éblouissement. Les lettres de ce mot dansaient devant ses yeux. 1000, c'était 10 000, 100 000, autant que l'on voulait, à condition d'ajouter des zéros. Et des chiffres si longs qu'il découvrait des courbes vers la fin s'enchevêtraient dans son esprit. Sa joie ne tarda pourtant pas à se calmer. Au fond, cet argent était si peu de choses à côté de tout ce dont il avait besoin. Ce billet était isolé. Il en eût fallu l'épaisseur d'un livre. Nicolas s'en voulut de s'être réjoui à ce point. « On me donnerait un morceau de sucre que je sauterais de bonheur. » Il éprouvait un sentiment bizarre après le mois misérable qu'il venait de passer. Cette somme lui apparaissait malgré tout comme une fortune, non semblable à celle qu'il imaginait, mais réelle, puisqu'il a porté sur lui qu'elle existait, qu'il pouvait la toucher. Malgré cela, en même temps qu'il savourait le plaisir de la sentir sur lui, il avait l'impression très nette qu'il ne possédait rien et que sa situation était la même.